12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, je suis ravie de vous retrouver. À mes côtés, il y a Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Dans une minute, c'est votre grand journal de la mi-journée avec la rédaction. Et puis dès 13h, on va faire bouger la France. Vous allez voir qu'il existe un secteur qui restait longtemps tabou, c'est celui des règles. Or aujourd'hui, des Français se battent pour le faire évoluer, pour notre bien et aussi pour notre santé. On vous attend, 39-21, à tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Il avait menacé de tout faire cramer. Un homme d'une vingtaine d'années est en garde à vue depuis ce matin après l'incendie à Courchevel. Le sinistre dans la station de ski avait fait 2 morts, 20 de blessés. Des rumeurs qui conduisent à une série d'interpellations dans la nuit. 20 personnes arrêtées en Seine-Saint-Denis. Elles s'apprêtaient à mener des expéditions punitives contre les Roms. Va-t-on sauver des emplois chez Arjowiggins? Le tribunal de commerce de Nanterre doit repousser de plusieurs jours sa décision. Information Europe 1. Une offre de dernière minute est sur la table pour le site de Bessé-sur-Braille. À la une aussi, la colère des enseignants. Ça se passe à Toulouse en ce moment. Le rapport sur le temps de travail des fonctionnaires d'État. Le vrai temps de travail. Dans ce journal aussi, la nouvelle campagne de mobilisation contre la surconsommation d'alcool. 2 verres maximum et pas tous les jours. Dieudonné devant la justice, mais cette fois pour fraude fiscale. Enfin, le premier hommage en spectacle à Michel Legrand. Michel Forever, ça débute ce soir, ça se passe à Paris. La météo, Elena Morna, c'est très agité sur la Corse.
Avec des vents localement tempétueux sur les caps les plus exposés, de la neige, de la pluie, plus calme et frais ailleurs. Ça va se radoucir demain pour mieux replonger dimanche et la semaine prochaine. Les températures yo-yo, c'est finalement très caractéristique du printemps.
Merci Elena, on vous retrouve juste avant 13h, météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
C'était, souvenez-vous, dans la nuit du 20 au 21 janvier, à Courchevel, en Savoie, un immeuble de la station de ski prenait feu, faisant 2 morts, 21 blessés. Un suspect vient d'être interpellé, information Europe 1. Rémi Pierre, on avait très tôt pensé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Manifestement, ça se confirme.
Ouais, vous le disiez, c'était une piste privilégiée par les enquêteurs dès le 25 janvier. C'est ce qu'avait indiqué alors le procureur d'Albertville, Anne Gache. Des traces d'hydrocarbures avaient été relevées et il y avait au moins 2 départs de feu dans le chalet. Il y avait aussi ces témoignages des résidents du chalet après l'incendie. Plusieurs saisonniers m'avaient notamment raconté une vive altercation entre 2 personnes quelques jours avant le drame, sur fond de rivalité amoureuse. Un homme aurait menacé de revenir tout faire cramer. Et c'est donc apparemment cet homme, âgé de 22 ans, qui aurait été interpellé. Il était d'ailleurs déjà en détention car il avait été arrêté il y a peu à la frontière espagnole par la police des airs et des frontières sous une fausse identité. Un jeune homme déjà connu pour des affaires de stupéfiants, de vol et de violence. La déception amoureuse pourrait donc bien être le mobile de l'incendie et il aurait agi sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Il est actuellement interrogé par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry. Mais parallèlement, l'enquête se poursuit également sur le respect des normes de sécurité dans ce chalet où l'un des principaux hôteliers de la célèbre station est bien logé ses employés.
Merci Rémi Pierre en direct de Chambéry pour Europe 1. Ils veulent eux menaient une chasse aux Roms. 20 personnes ont été interpellées cette nuit à Clichy-sous-Bois et à Bobigny. Plusieurs individus armés avaient même commencé leurs expéditions punitives quand la police est intervenue. Guillaume Bié, tout ce petit monde est actuellement en garde à vue et tout est parti de rumeurs qui circulaient.
Oui, le poids de la rumeur colportée et amplifiée par les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, des messages et des vidéos diffusent ce même soupçon. Des membres de la communauté rom tourneraient en banlieue parisienne à bord de camionnettes et chercheraient à kidnapper des enfants pour les prostituer ou vendre leurs organes. Voilà ce qui circule de portable en portable, souvent relayé de bonne foi, il faut le dire, par des habitants, des parents légitimement inquiets. Et la rumeur a pris une telle ampleur qu'elle a déclenché une série d'expéditions punitives la nuit dernière contre des camps de Roms en Seine-Saint-Denis. À Clichy-sous-Bois, 20 de personnes armées de bâtons ont attaqué un squat dont les occupants ont dû se réfugier dans un supermarché. À Bobigny, c'est 50 de personnes armées qui a détruit et incendié des camionnettes en bordure d'un campement. Tous ces actes ont été filmés par les auteurs, vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avec des appels à la haine et à la violence. D'autres exactions aussi à Bondy, à Noisy-le-Sec ou encore à Aubervilliers. Ça a mobilisé les policiers toute la nuit. Au total, 20 personnes interpellées, pas de blessés signalés, hormis 2 policiers. Tout cela donc à partir de rumeurs infondées à ce stade. D'après les autorités, aucun cas avéré d'enlèvement d'enfants n'a été signalé. En revanche, c'est vrai, il y a eu de multiples témoignages sur de prétendues tentatives d'enlèvement. Tout ça est examiné et vérifié attentivement par les enquêteurs. Ces témoignages ont très probablement alimenté cette fameuse rumeur.
Merci Guillaume Bié pour ces précisions. Notez que Yacine Bellatar est en garde à vue et ce depuis ce matin. L'humoriste fait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement professionnel et menace de mort. Il était convoqué au commissariat du 5e arrondissement pour être entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte fin janvier.
Il est 12h34, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Reste-t-il un espoir pour les salariés d'Arjo Wiggins? Peut-être bien, un sursis pourrait en effet être accordé pour l'un des trois sites du groupe Papetier, celui de Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe, celui qui emploie justement le plus de personnes, 580. Ce sont les toutes dernières informations que vous venez d'obtenir, Anne-Laure Jumet.
Oui, effectivement, le tribunal de commerce de Nanterre a accepté de repousser de quelques jours sa décision, un report à vendredi, car il y a une nouvelle offre, une offre de dernière minute déposée par le management. Le directeur du site, Jean-Christophe Maillan, porte le projet. Il y a travaillé tout le week-end avec les avocats et les services de Bercy. Alors cette offre, attention, ne reprend que 200 salariés sur les 580 que compte le site. Les pouvoirs publics financent cette offre pour moitié, 12,5 millions d'euros. Le reste, les 12,5 millions d'euros restants, doivent encore être trouvés en faisant appel au secteur privé. Alors qu'en pensent les représentants du personnel? Eh bien, je viens d'avoir en ligne Thomas Hollande, l'avocat des salariés. Il nous dit être assez méfiant. Il ne faudrait pas, dit-il, que ce soit un enfumage. Il se rendra d'ailleurs demain sur le site et communiquera à cette occasion la position des représentants du personnel.
Merci Anne-Laure Jumet. À Toulouse, cette fois, action surprise des enseignants en colère. Ils se réunissent ce midi dans le centre-ville pour dénoncer la réforme Blanquer, mais aussi protester contre les violences qu'ils ont subies, c'était la semaine dernière, quand ils sont allés manifester devant le rectorat Benjamin Peter.
Oui, en effet, la semaine dernière, ils étaient quelques-uns à bloquer l'entrée du rectorat devant les grilles. Ils ont été évacués sans ménagement par les forces de l'ordre à coups de spray lacrymogène. Une violence qu'ils dénoncent en occupant depuis quelques minutes maintenant la Toulouse Business School, l'école de commerce. Et ce qu'ils veulent, c'est alerter sur la réforme Blanquer. Odé est professeur des écoles, elle n'est pas syndiquée, mais elle se mobilise aujourd'hui parce qu'elle s'inquiète des changements qu'apporte cette réforme.
D'abord les directeurs d'école qui vont être adjoints des collèges, donc complètement déconnectés de la réalité des écoles. Ensuite, il y a une grande précarisation du métier puisqu'il y a de plus en plus de contractuels qui sont embauchés puis qui ne sont pas titularisés derrière, donc ils sont quand même dans une situation extrêmement précaire. On a quand même une grande inquiétude aussi sur les financements des maternelles puisqu'il va y avoir l'obligation en tout cas que tous les élèves aillent à la maternelle. Avec quel budget, on ne sait pas trop parce que pour le moment, les écoles maternelles sont déjà pleines à craquer. Du moment que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions, en fait, c'est la seule chose qui nous importe. On n'est pas là pour défendre spécialement notre statut ou nos salaires, comme il y a plein de gens peut-être qui vont le penser. On est vraiment là pour les élèves.
Voilà, alors après s'être réunis dans le centre-ville, les professeurs en colère ont pris le métro. Ils ont rejoint donc la Toulouse Business School au pas de course. Une action qu'ils veulent pacifique, non violente, mais symbolique selon eux de la sélection. Et pour le moment, ils occupent le hall de l'école, une occupation qui se déroule dans le calme.
Merci Benjamin Peter en direct de Toulouse pour Europe 1. Au Mans, retour à la normale ce matin après les affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre et les forains hier. Plusieurs centaines d'entre eux étaient venus manifester pour obtenir de la mairie qu'elle les autorise à s'installer en centre-ville. Hier soir, le maire leur a fait savoir que la balle était dans leur camp et qu'il refusait toute discussion sous la pression ou la violence.
Il est 12h37 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Avec un rapport qui fait du bruit et il tombe ce matin alors que demain, précisément, la réforme de la fonction publique sera examinée en Conseil des ministres. L'inspection générale des finances s'est intéressée de près au temps de travail des fonctionnaires de l'État, ceux qui travaillent par exemple aussi bien dans les ministères que dans les préfectures. Et que dit-il ce rapport paru dans les colonnes du Figaro ce matin? Eh bien que 310 000 d'entre eux travaillent moins de 35 heures. Olivier Samin, des aménagements d'horaires qui pour la plupart ne sont manifestement pas justifiés.
Oui, alors quand il y a des contraintes spécifiques, travail de nuit, travail le week-end, pénibilité, ou quand il s'agit des profs dont on ne peut pas mesurer le temps de travail, faire moins de 35 heures, ça se comprend, mais ce que le rapport de l'IGF pointe du doigt, c'est la situation de tous ces fonctionnaires qui n'endurent pas ces contraintes et qui profitent malgré tout du même régime. Sur les 310 000 fonctionnaires de l'État qui font moins de 35 heures, 190 000, dit l'Inspection générale des finances, bénéficient de cette durée du travail allégée sans que ce soit justifié. Un exemple, dans l'administration pénitentiaire, les personnels administratifs ont droit aux 5 jours de repos compensateur de leurs collègues surveillants, alors qu'ils n'ont pas, eux, les contraintes horaires des surveillants. Dans d'autres ministères, il y a des avantages très anciens qui ne correspondent pas à grand-chose. Par exemple, 7 jours de congé en plus au ministère de la Culture, au titre de, écoutez bien, la semaine Malraux.
Le gouvernement, dites-moi, va-t-il se saisir de ce rapport dans le cadre justement de la réforme de la fonction publique qu'il s'apprête dès demain à défendre?
Eh bien oui, c'est ce qui se dessine officiellement sur cette question du temps de travail. La réforme ne prévoit rien pour les fonctionnaires de l'État. Elle prévoit seulement le retour aux 35 heures dans les collectivités territoriales qui, ici ou là, avaient mis en place des durées dérogatoires. Avec la publication de ce rapport, il ne serait pas surprenant que des décisions soient prises aussi pour les fonctionnaires de l'État. Ce matin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a indiqué que les conclusions du rapport allaient nourrir le débat parlementaire. On devine ce que ça veut dire. Ce que dit en tout cas l'inspection générale des finances, c'est que si on faisait revenir aux 35 heures les 190 000 fonctionnaires de l'État pour lesquels les dérogations n'ont pas de justification, eh bien ça permettrait d'économiser 30 000 postes.
Merci Olivier Samin.
Vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
C'est pour tisser des liens forts entre l'Europe et la Chine qu'Emmanuel Macron a invité aujourd'hui Angela Merkel et Jean-Claude Juncker à le retrouver à Paris pendant la visite du président Xi Jinping. Le chef de l'État français a voulu montrer un front uni au président chinois avec un message d'unité clairement affiché et martelé ce matin à l'Élysée.
L'enjeu est aussi de démontrer dans les faits que la coopération rapporte plus que la confrontation et que nous avons plus à gagner à l'ouverture qu'à la fermeture. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde.
Le chef de l'État ce matin à l'Élysée avec Jean-Rémy Baudot. Et puis c'est officiel, Pascal Canfin confirme, il rejoint Nathalie Loiseau sur la liste La République En Marche aux Européennes. Il sera numéro 2 mais sans adhérer pour autant au parti. Confidence qu'il fait au journal Le Monde apparaître cet après-midi. L'ancien ministre Europe Écologie Les Verts affirme avoir obtenu les assurances nécessaires auprès d'Emmanuel Macron en matière d'écologie.
Il est 12h41.
Europe 1.
Restez avec nous. Dans un instant, on teste votre consommation d'alcool. Une nouvelle campagne est lancée et vous allez avoir des surprises. À tout de suite.
Il est 12h44 sur Europe 1, la suite du journal avec Raphaël Duchemin.
Écoutez bien, un Français sur quatre boit trop. Ça n'est pas moi qui le dis, mais Santé publique qui l'affirme. Encore faut-il savoir ce que trop veut dire. C'est pour nous éclairer justement et nous apprendre aussi à mieux gérer notre consommation qu'une campagne est lancée. Elle démarre aujourd'hui. Elle va durer jusqu'au 14 avril. La règle maintenant, c'est maximum de verres par jour et pas tous les jours. Sophie Echen est allée vous tendre le micro pour savoir si vous respectiez ou pas ces nouvelles dispositions.
Deux verres par jour et pas tous les jours, ça veut tout dire mais rien dire. Pour moi, c'est totalement du vent. Il faut savoir juste se réguler.
Ça peut faire presque incitation, mais le vrai message qui est derrière, je pense que c'est vraiment une responsabilisation. Après les cours, on va boire une ou deux bières. En sortant du travail, on va prendre un verre aussi avec les collègues. Le week-end, on sort avec nos potes.
Deux verres par jour, je me dis, c'est déjà pas mal. J'avais plutôt en tête un verre par jour au départ.
Je trouve que c'est déjà beaucoup. L'alcool, c'est très agréable. Moi, je suis pas du tout abstinente. L'habitude peut mener à l'addiction sans consommer. S'en rendre compte, l'alcool est une drogue dure, sournoise.
Deux verres par jour, pas tous les jours. C'est vrai, même un verre par jour, c'est déjà trop. Je me situe pas dedans, je bois pas tous les jours, mais je pense consommer trop pendant les week-ends. Deux verres par semaine même, c'est bien, je pense.
Aïe, 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 voilà qui fait réfléchir. Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
En fait, on a changé d'axe, hein, parce que justement, on faisait le lien au départ entre alcool et volant. Là, on élargit.
Ah oui, l'idée, c'est qu'on connaît déjà certains risques liés à l'alcool. Vous l'avez dit, les accidents de voiture, la cirrhose du foie, même le fait de simplement terminer une soirée la tête à l'envers. Mais ce que certains d'autres risques sont méconnus, et vous allez l'entendre, la campagne de Santé publique France a choisi de nous les décrire sur un ton très dramatique.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension.
Et ces risques, vous les prenez donc si vous dépassez le fameux seuil des deux verres par jour et pas tous les jours. Alors on a vu qu'un quart des Français buvaient au-delà de cette limite, ce qui fait quand même 10 millions de personnes en France. Les jeunes parce qu'ils boivent plus de deux verres à chaque occasion et les plus vieux parce qu'ils boivent tous les jours sans jamais faire de pause.
Merci Ève Roger.
Il est 12h46, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec vous Raphaël Duchemin.
Après la famille de la septuagénaire blessée à Nice, cette fois c'est Attac qui a décidé de porter plainte. Le collectif appuyé par la Ligue des droits de l'homme a décidé de demander réparation pour violence aggravée en réunion avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Mais ce n'est pas tout. Une deuxième plainte sera aussi déposée pour cette fois subornation de témoins, car Maître Arié Halimi estime qu'on a à l'hôpital essayé d'influencer les déclarations de la retraitée.
Quand Geneviève a été interrogée par les fonctionnaires de police le lendemain des faits, alors qu'elle était dans un état particulièrement grave, elle a retransmis à ses filles qu'il y avait eu des questions insistantes, voire des demandes insistantes de la part des policiers qui l'avaient interrogée, visant à l'orienter vers une responsabilité d'un caméraman qui était sur place et non pas vers celle des forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous considérons que orienter le témoignage, notamment d'une victime, en plus dans un état grave, moi je pense que c'est réellement indécent hein, d'avoir fait venir les forces de l'ordre le lendemain à l'hôpital pour l'interroger sur son lit d'hôpital. Mais bon, je pense qu'on n'en est pas au début de l'indécence compte tenu des déclarations qui ont été faites par M. Macron et d'autres personnes qui représentent notre pays. Et bien effectivement, je considère qu'il y a les éléments matériels et intentionnels de l'infraction de subornation de témoins.
Maître Ari Halimi au micro d'Aude Vernuccio. Sachez également qu'il y aura ce soir un rassemblement prévu en soutien place de la République. Dieudonné, lui, a de nouveau rendez-vous cet après-midi avec la justice. Cette fois, l'humoriste va devoir répondre de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, car on s'est aperçu qu'avec sa compagne, il avait dissimulé 1,5 million d'euros au fisc.
Il est 12h47, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Avec cette réunion, ça se passe aujourd'hui au ministère des Sports. D'un côté, il y a la ministre, Roxana Maracineanu. De l'autre, la présidente de la Ligue de foot professionnelle, Nathalie Bois de la Tour. Et au milieu des dossiers concernant les supporters, leurs déplacements, les jets de fumigène, mais aussi et surtout, Julien Froment, les chants homophobes dans les tribunes. Ça avait beaucoup choqué Roxana Maracineanu.
Oui, exactement. Et la présidente de la Ligue professionnelle de football, Nathalie Bois de la Tour, est revenue sur ses propos, ou plutôt à repréciser ce qu'elle avait dit dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien ce matin. Pour elle, c'est clair et net, les chants homophobes dans les stades de foot sont intolérables.
Il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation rapide et superficielle de ce qui a été dit. Je n'ai jamais dit que c'était folklorique, que j'adhérais à ce folklore. J'ai bien dit, et je le répète, que pour certains supporters, ça s'apparentait à du folklore. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Je condamne l'ensemble des propos homophobes qui sont tenus dans certains stades.
Des propos qui ont été entendus par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Aujourd'hui, on ressort de cette réunion totalement raccord sur les principes d'éducation à faire aujourd'hui et de prévention, de responsabilisation des clubs également. Les entraîneurs passent, les joueurs passent, les dirigeants passent, mais les supporters restent là et fidèles à leur club, donc il faut qu'ils soient responsables.
Alors, le seul point de litige entre les deux femmes, la ministre prône la fermeté des sanctions financières et sportives contre les chants homophobes. Quand Nathalie Bois de la Tour, elle plaide le principe de réalité et souhaite surtout un travail de prévention et d'éducation dans les tribunes.
Merci Julien Froment.
Il est 12h49. Europe 1.
Restez avec nous. Un Picasso retrouvé, il avait disparu dans le port d'Antibes, c'était il y a 20 ans.
Il est 12h52 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Une toile de 25 millions d'euros vient d'être retrouvée. Le tableau avait disparu il y a 20 ans. Signé Picasso, ce portrait de Dora Maar avait été volé en France, dans le port d'Antibes. Et c'est un expert international qui a en quelque sorte joué les Sherlock Holmes pour finir par le dénicher aux Pays-Bas. L'œuvre du peintre espagnol Frédéric Michel est aussi connue sous le nom de buste de femme.
Effectivement, Raphaël, et c'est sur le yacht d'un riche saoudien, yacht en travaux, ironie du sort pour être repeint, que cette toile avait été dérobée. Le tableau qui faisait partie de la collection privée de Picasso jusqu'à sa mort avait été à l'époque estimé à seulement 4 millions de livres sterling. Alors que vous l'avez dit, on parle aujourd'hui de 25 millions d'euros. On ne pensait ne plus jamais revoir ce chef-d'œuvre, mais c'était sans compter sur la sagacité de l'expert d'art néerlandais Arthur Brandt, surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art pour ses exploits d'enquêteur. Après le cambriolage, les recherches de la police française étaient restées infructueuses. Les enquêteurs avaient fini par clore le dossier. Pendant ce temps, le tableau, lui, aurait servi de monnaie d'échange entre truands, souvent utilisés comme garantie dans des trafics de drogue et des ventes d'armes aux Pays-Bas. Mais mi-mars, à Amsterdam, deux personnes travaillant pour un homme d'affaires néerlandais frappent à sa porte au beau milieu de la nuit. Ils ont le portrait sous le bras, emballé dans un drap et des sacs poubelles. L'homme d'affaires était affligé, il ignorait qu'il avait un tableau volé en sa possession. Ce passionné d'art n'a quand même pas résisté à la tentation de l'accrocher à son mur, faisant de son appartement, le temps d'une nuit, l'un des plus plus chères d'Europe. Authentifié le lendemain, ce portrait de Dora Maar vient d'être remis à une compagnie d'assurance qui préfère rester anonyme. On imagine que cette huile sur toile n'est plus sur un mur, mais dans un coffre-fort ultra sécurisé.
Merci Frédéric Michel à Nice pour Europe 1. Et puis c'est ce soir que démarre au Théâtre de Poche Montparnasse à Paris le spectacle en hommage à Michel Legrand. Cela fait 2 mois, jour pour jour, que le compositeur est décédé. C'est son épouse, Macha Merrill, qui a donné le feu vert pour ce projet Michel Forever. À la fois, vous allez l'entendre ému et enthousiaste.
Ce n'est pas un hommage, c'est un spectacle inspiré par les musiques de Michel Legrand. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que Michel, il aurait détesté les hommages, les commémorations, tout ça, c'était vraiment pas un truc qui l'amusait. Par contre, continue à faire vivre sa musique. Donc il y aura des chansons, il y aura des extraits de films, il y aura des extraits de même de certaines musiques classiques. Et c'est ça qui caractérise l'œuvre de Michel. Il attachait la même importance à une chanson qu'à une musique de film ou à un concerto. Et je pense que comme toutes les musiques de Michel, on va être joyeux mais on va pleurer aussi. C'est à la fois très bouleversant et aussi très dynamisant.
Macha Merrill avec Thierry Geffrotin et la musique du film Un été 42 pour terminer cette édition.
Et Macha Merrill, tiens, je vous le dis, Raphaël sera l'invité de Carl Zéro demain de 16h à 17h sur Europe 1. Elle nous en dira plus, bien sûr, sur cet événement et cet hommage à Michel Legrand. Il est 12h55.
Europe 1.
Dans un instant, les grands titres de ce mardi avec vous, Raphaël.
Et vous restez bien sûr avec nous. Juste après, vous allez découvrir des initiatives qui font bouger la France. Après les multiples alertes, c'est aux tampons et aux protections hygiéniques qu'on va s'intéresser. C'est la France qui bouge, on vous attend. À tout de suite.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna, il neige sur la Haute-Corse, Elena. Est-ce que c'est bien normal? On est le 26 mars.
Eh bien oui, c'est vrai qu'on a été complètement déboussolés par cette météo à 25 degrés en février. Du coup, on attend la même chose en mars. Eh bien non, la pluie, le soleil, les giboulées, la fraîcheur, la douceur sont des sautes d'humeur qui caractérisent le printemps. Cette agitation sur la Corse, neige, pluie, vent fort, hein, jusqu'à 110 km/h. On les doit à une dépression italienne, météo agitée qui va progressivement se calmer, surtout ce soir et demain. Ailleurs, c'est une après-midi souvent ensoleillée, sauf sur un bon quart nord-est, avec des passages nuageux plus fréquents. Le vent commence à s'essouffler aussi sur le sud-est, mais on a encore des rafales à 80 km/h, surtout pour le Mistral. C'est frais, les températures, tout juste de saison, avec 10 degrés à Dunkerque cet après-midi jusqu'à 19 à Montpellier, 13 à Rouen, à Paris, à Bourges ainsi qu'à Colmar. Et puis demain, Raphaël, sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus doux, des températures qui remontent. Ce sera enfin terminé l'agitation sur la Corse. On aura 11 à 21 degrés du nord au sud. Jusqu'à samedi, on va prendre quelques degrés. Et puis après, que va-t-il se passer dimanche? Boum!
Ah non!
La chute sera
merci,
d'autant plus dure.
Elena. Voilà. Sortez. Immédiatement.
D'accord.